Et j'ai oublié d'ajouter qu'en Amazonie, vous avez également le point le plus haut, le point culminant de tout le Brésil. De tout le Brésil, le Pico da Neblina.
Bonjour. Je voudrais vous poser une question sur le brûlis, s'il vous plaît.
Sur le brûlis,
Le
oui.
brûlis, alors en France, c'est controversé, on dit qu'il est contre-productif, notamment en Corse, dans le Cher, dans le Sud-Ouest. Et je l'ai vu pratiquer dans le bassin du Rio Negro, il se fait au kérosène. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, si encore aujourd'hui ça se pratique comme ça, mais qu'est-ce qu'il en est des résidus d'hydrocarbures dans le terrain, quoi. Voilà.
Ah, écoutez, alors, je ne suis pas au courant de cette technique de brûlis au kérosène. C'est dans quelle région du Rio Negro?
Tout le long du Rio Negro. C'était dans les années 80, hein, je dois le préciser. Alors je ne sais plus aujourd'hui comment il se pratique, justement. Je ne sais pas
Écoutez.
comment se pratique le brûlis dans la forêt humide. Parce qu'il se pratiquait à plusieurs reprises, les agriculteurs ou les colons arrivaient avec leur bidon, brûlaient une première fois, ce qui n'est pas suffisant, et brûlaient pendant plusieurs semaines ce qu'il restait de bois non calciné. Parce que je ne sais pas aujourd'hui comment ils font pour brûler la forêt humide.
Mais écoutez, le processus de brûlis résulte de deux étapes antérieures, c'est-à-dire que d'abord, on va nettoyer la forêt de tout le sous-bois. D'abord, il y a une époque particulière, on va faire ça en fin de saison des pluies. On abat la végétation basse. Une fois que l'environnement est dégagé, on va abattre les plus gros arbres, avec une gestion très particulière des arbres pour que l'un entraîne l'autre et limite le travail. La végétation va sécher durant 5-6 semaines. Alors la durée de séchage va dépendre un peu du type de forêt au départ. Une forêt fine, évidemment, demandera moins de temps pour que ses bois sèchent. Une forêt qu'on appelle primaire, mais qui en fait est de la très ancienne forêt, mais déjà qui a déjà été transformée par l'homme, elle mettra environ 6 semaines ou même 2 mois pour être brûlée. L'intervention du kérosène, je l'ai vue seulement de manière tout à fait réduite, pour mettre le feu initial au centre de la bâtie et pour le brûler. Alors parfois la végétation brûle mal, on la rebrûle, mais elle peut être brûlée aussi avec des brindilles, du papier, enfin d'autres manières de mettre à feu. Je ne connais pas l'utilisation intensive, au moins de Barcelos jusqu'au Rio Negro, du kérosène. Ce que j'ai constaté et ce qui est rapporté dans la littérature est un brûlis, je dirais, absolument traditionnel, classique, sans autre implication. Mais
En France, on dit que c'est contre-productif, que ça lessive le sol.
alors,
Et vous semblez dire qu'au contraire, au Brésil, c'était plutôt productif.
je pense qu'il faut vraiment considérer le type de système agricole dans lequel cela s'insère. Vous avez des systèmes agricoles qui sont développés sur les fronts de colonisation, où une première parcelle de forêt est défrichée et après est soumise à une régénération relativement courte, de 2 ans, 3 ans ou moins, puis replantée en manioc, par exemple, puis transformée en pâturage. Donc évidemment, à chaque fois, il y a avancée sur la forêt de l'agriculture sur brûlis, donc un bilan globalement négatif. Dans les régions extrêmement forestières du Rio Negro, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un abatis d'environ un demi-hectare qui est défriché chaque année et qui se régénérera au bout de 10 à 20 ans avec différentes périodes d'enrichissement fruitier. Enfin, la structure productive de l'abatis est maintenue. Donc cela s'insère dans une rotation à long terme qui n'altère pas globalement la forêt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment sont en train d'être discutées l'application de bourses forêt, c'est-à-dire d'appui financier pour que les familles ne brûlent pas de forêt, mais limitent leur culture à d'anciennes formations déjà transformées, déjà utilisées. D'accord, d'une part, cela limite l'utilisation de nouveaux espaces forestiers, mais de l'autre, je pense que ça peut avoir des effets extrêmement négatifs sur le maintien de la diversité agricole extrêmement riche, puisque à chaque fois, en ne brûlant pas de l'espace forestier relativement intact, enfin soumis à un long cycle de régénération, vous allez utiliser des espaces de plus en plus appauvris. Donc il y a des choix à faire. Conserver la forêt, conserver une diversité agricole extrêmement riche. Et la diversité agricole extrêmement riche que l'on observe dans le Rio Negro, elle est permise à cause du brûlis forestier. Donc il y a des choix.
Je voulais vous demander où était le barrage que l'Indien du Brésil défend. Il y a un grand barrage qui doit être fait au Brésil.
Condane, oui. Le barrage se trouve sur le Rio Xingu, dans ce qu'on appelle la boucle du Rio Xingu, en Amazonie centrale. Je peux vous le situer plus précisément sur une carte. Il se trouve par ici. Sur cette carte, je suis désolée, c'est d'accord. Et les travaux ont commencé, ce qui se traduit dans l'immédiat par un afflux absolument colossal de population dans la petite ville voisine, Altamira, et qui entraîne une déstructuration et une violence extrêmement forte. C'est le barrage de Belo Monte sur le Rio Xingu. Il y a un tissu relativement dense de différents types d'unités de conservation. Vous avez des unités de conservation qui sont de type intangible, type des parcs nationaux ou des parcs des États, puisque le Brésil est un pays fédéral. Et vous avez aussi des unités de conservation indirectes, qui sont des unités qui sont soumises à des règles de gestion. Dans ce cas-là, vous avez par exemple les réserves extractivistes. Donc il y en a plusieurs dans l'Acre et il y en a dans les différents états du Brésil. Et vous avez à côté de ça les terres indigènes. Il a été largement montré que l'ensemble des terres indigènes ou des unités soumises à des règles de conservation étaient évidemment beaucoup moins altérées que la végétation environnante. Sauf erreur, je crois que l'ensemble des unités de conservation au Brésil représente autour de 20 à 25% du territoire. Au Brésil, en Amazonie. Donc vous avez une carte de ces unités présentées ici. Mais malheureusement, je vous ai cité tout à l'heure le chiffre des 240 km² qui avaient brûlé au mois d'août, il y en avait une soixantaine qui ont été prises sur les unités de conservation. Il est extrêmement difficile de maintenir des règles d'exploitation. Les surfaces mises en jeu, les superficies, le Pico da Neblina est un... Je ne sais plus quelle est sa surface, mais il doit y avoir 2 ou 3 fonctionnaires qui assurent sa protection sur un parc de plusieurs dizaines de milliers d'hectares.
Bon. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si l'IRD fait des plaidoyers auprès du gouvernement brésilien pour justement... que vous arriviez à faire comprendre peut-être que l'augmentation de la densité démographique, par exemple, peut jouer sur le cycle de jachère et donc de recomposition de la terre, par exemple.
Alors, notre rôle n'est pas de faire des plaidoyers auprès du gouvernement, mais éventuellement d'apporter des données qui peuvent démontrer. Toujours, ces données sont apportées en partenariat avec les institutions brésiliennes qui montrent l'impact des différentes actions. De l'augmentation démographique, des types de gestion de l'environnement. Enfin, il y a différentes zones dans lesquelles l'IRD mène des recherches depuis fort longtemps. Elles sont menées soit avec des ONG, soit avec des institutions gouvernementales, soit avec des universités. Mais le rôle de l'IRD n'est pas de faire remonter directement ces informations auprès du gouvernement, mais de les rendre disponibles. Et c'est extrêmement important. Je considère que le rôle du chercheur est, dans le cas de l'IRD, et de fournir des instruments d'aide à la décision en termes de politique publique. Mais son rôle aussi est d'organiser, de penser une restitution des informations auprès des populations locales, donc aux deux échelons.
Bonjour. Oui. Moi, je voudrais que... Je n'ai pas bien compris l'explication des graines. Concernant le manioc, en fait, je voulais savoir, en fait, quand les fourmis se déplacent, déplacent les graines, on génère une autre origine du manioc différente, ou c'est, ou quand même on arrive à retrouver l'origine de base. J'ai pas bien compris l'explication au niveau des modifications, c'est-à-dire les fourmis transportent les graines, ensuite on ne sait plus si c'est le père, la mère, mais est-ce que c'est une origine différente, on génère une autre plante, ou c'est une plante quand même qui a quand même son origine?
Oui, en fait, le mode traditionnel de normal de la propagation du manioc est par bouture.
D'accord.
Donc vous avez un pied qui va être tronçonné et on va enfiler une bouture dans le sol. Cette bouture se développera et donnera naissance à un nouveau pied de manioc qui sera, sauf mutation, en tout point identique au pied précédent. Donc il y a une filiation du pied enfant par rapport au pied d'origine qui est nettement visible.
D'accord.
Dans le cas de la graine, le manioc est issu d'une fécondation croisée. Donc ce que vous allez obtenir ne va pas être le morphotype, ni le génotype, ni le phénotype du pied mère des deux pieds parents, mais un nouveau pied. Or, les Indiens, du moins dans le Rio Negro, ont un système de dénomination extrêmement compliqué, extrêmement balisé de la diversité variétale. Et ces pieds, dont ils ne savent pas l'origine, sont appelés les pieds sans mère ou sans père, uniquement parce qu'on ne sait pas de quel pied ils vont provenir. D'accord ? Et en plus, il va y avoir un décalage, il peut y avoir un décalage de 5 ans, de 10 ans, entre le moment où le pied de manioc aura germé, aura donné des fruits, les graines auront été dispersées, et le moment où le feu passera et lèvera la dormance.
D'accord ? J'ai juste une autre question, je voudrais savoir, le roucou, c'est un colorant ou c'est une épice, en fait ?
C'est un peu entre les deux. Ça imprime un léger goût, mais je pense qu'il est essentiellement utilisé comme colorant. Et puis c'est une peinture faciale, c'est un protecteur, enfin il a différentes utilisations. C'est la rille, la petite enveloppe qu'il y a autour de la graine, qui contient une forte proportion de lipides et des, je ne sais plus quel est le colorant rouge, qui est appliqué sur la peau, donc, qui protège contre le soleil. Donc il a un peu le double rôle.
Excusez-moi. Oui, concernant le manioc, il y a un problème au niveau de la toxicité. Non ? Et en fonction de la terre où il est cultivé, on a macaxeira ou manioc, ce n'est pas tout à fait consommable, en fait.
Oui.
Macaxeira est consommable, et puis le manioc, il n'y est pas toujours. Donc, quand ça vient de différentes origines, on n'a pas de sûreté sur sa consommation.
En fait, le manioc comprend deux grands ensembles de variétés. Les variétés qui sont douces et les variétés qui sont amères. Celles qui sont amères sont celles qui doivent être détoxiquées avant d'être consommées. Celles qui sont douces, et comme vous le dites, toutes celles qui sont dites les macaxeira, les aipins au Brésil. Alors, ces deux ensembles de variétés correspondent à une distribution différente en Amazonie. En Amazonie périandine, le long des Andes, vous allez retrouver essentiellement des variétés douces. En Amazonie centrale, et dans la région du Rio Negro en particulier, vous allez retrouver essentiellement des variétés amères. Vous allez trouver aussi quelques variétés douces, mais qui auront été introduites probablement soit par les missionnaires, soit par les commerçants. Évidemment, selon les conditions, le stress hydrique, les conditions de plantation, le type de sol et tout ça, vous allez avoir des variations dans la teneur en dérivés de composés cyanhydriques dans le tubercule. Mais vous resterez quand même dans les deux groupes, soit de variétés douces, soit de variétés amères. C'est-à-dire qu'une variété amère ne va pas devenir douce, ni une douce amère, en fonction de ce lieu de plantation. Ce sont deux ensembles de variétés qui sont distincts. Et quand il y a des variétés, des deux types, qui sont plantées par une même famille, dans un même endroit, Dans le Rio Negro, les variétés amères vont être plantées en plein champ, avec les différentes variétés, selon un système de mosaïque, et les variétés douces vont être plantées à part pour ne pas être confondues avec les variétés amères. C'est-à-dire que vous pourriez envoyer votre gamin chercher des variétés douces sans risquer qu'il rapporte une variété amère. Mais elle, en fait, l'hybridation provient, se fait essentiellement entre variétés amères. La présence de variétés douces est tout à fait limitée pour l'instant dans le Rio Negro. D'accord, donc. Ah, dans le Nord-Est, c'est un cas de figure différent. Voilà. Elle est beaucoup plus faible parce que vous avez des variétés essentiellement choisies en fonction de leur résistance à la sécheresse.
Oui, j'aimerais savoir comment ça se fait, c'est un peu naïf, mais comment ça se fait qu'il y a encore autant d'espèces, alors qu'il y a beaucoup de chercheurs sur le terrain, l'industrie pharmaceutique, entre autres, hein, et comment ça se fait qu'il y a encore autant d'espèces qui ne sont pas connues de végétaux en Amazonie? C'est assez...
Cela vous surprend?
Ah oui, 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 je trouve. Oui, parce que les Brésiliens aussi, j'ai eu l'occasion d'aller au Brésil plusieurs fois. Et même les Brésiliens sur place ne connaissent pas tous les fruits qui sont même sur... qu'on peut encore leur proposer. Et c'est quand même assez étonnant, je trouve.
Alors, il y a... Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ça. D'abord, il faut voir l'immensité de l'Amazonie. 4,2 millions de kilomètres carrés, enfin, ou 5 millions, enfin, selon les définitions que l'on peut donner à l'Amazonie, les difficultés d'accès, le coût d'accès, les problèmes de constitution de collection. Et il y a bien évidemment un suréchantillonnage ou un échantillonnage extrêmement intensif de ce qui est à proximité des centres universitaires et des centres de recherche. Les autres collections, les autres relevés botaniques demeurent très, très ponctuels. Donc, si on relève l'ensemble de la littérature, vous avez quand même énormément de listes d'espèces utilisées qui ont été déjà publiées. Mais le chiffre que j'ai cité se réfère à ce qui est en herbier au Brésil, je crois, au Jardin botanique de Rio, qui est déjà identifié dans les collections nationales.
Oui, bonsoir. Je voudrais savoir si dans la culture du brûlis, les grands arbres sont préservés, protégés d'une certaine façon, et quels sont les arbres utilisés justement de manière traditionnelle par les Amazoniens, et également s'il y a des garimpeiros en Amazonie brésilienne. Merci.
Tout un ensemble de questions. Alors sur Le choix de l'emplacement des abatis, il est souvent fait en fonction de la présence d'espèces particulièrement intéressantes. C'est-à-dire qu'on ne va pas brûler un espace où il y aura par exemple un pied d'oukouki ou un pied de castagne du Brésil qui pourrait avoir un intérêt. L'abati sera fait en dehors de cet espace. Pour d'autres espèces, peut-être de porcs moins imposants, il y a des techniques de protection lors du brûlis, qui peuvent endommager un peu l'individu, mais qui lui permettent de ne pas être dévoré par les flammes. Donc on le conserve dans la bâtisse. C'est par exemple le cas du Tucumán. Il y a aussi des espèces qui sont favorisées, et c'est aussi le cas du Tucumán, par le brûlis, qui donneront une jachère avec différentes qui sera productive. Vous demandiez aussi quelles étaient les espèces intéressantes utilisées. Je crois que la liste, elle est colossale. Des arbres, elle est colossale. Vous avez des plantes qui sont utilisées pour leurs produits, pour leurs propriétés médicinales, pour leurs propriétés tinctoriales, pour le bois. Vous avez énormément de lianes aussi qui sont utilisées. Je ne peux pas vous les citer, il y a des espèces forestières dont les fruits sont consommés. Il y a aussi des formes d'usage indirect, des espèces qui vont donner des fruits. On sait qu'ils vont attirer la chasse, donc ce sera un point d'attente de gibier. Il y a un registre absolument colossal de possibilités d'utilisation des plantes. Je vous conseille de regarder le livre de Schultes et Raffo sur l'utilisation, je pourrais vous donner la référence tout à l'heure, sur l'utilisation des plantes amazoniennes, en particulier en Amazonie du Nord-Ouest, ce qui est un livre d'une solide épaisseur. Vous avez à propos de l'inventaire, vous avez des plantes, vous avez une flore qui a été publiée, qui est la flore qui a été publiée par l'INPA de la réserve Adouk, qui est la réserve écologique qui est à proximité de Manaus, qui peut vous intéresser. Sur la présence de Garimpeiros, il y en a, alors je n'ai pas la carte des sites aurifères en tête, mais vous en avez, cela fonctionne par vague. Il y en a eu dans le Rio Negro dans les années 93-94 qui ont été expulsés par la police fédérale. Maintenant, vous en avez plus à proximité chez les Yanomami. Vous en avez aussi à proximité de la frontière de Guyane. Il y a énormément d'orpailleurs brésiliens qui sont en Guyane. Enfin, il y a X foyers et le problème n'est toujours pas résolu.
Oui, je voulais simplement demander s'il y avait de l'exploitation de pétrole dans l'Amazonie brésilienne.
Il y a l'exploitation du pétrole, aussi, parce que de gaz.
L'équateur, et le problème, c'est qu'il y a l'exploitation de pétrole en Équateur. Et je ne sais pas si au Brésil, il y a aussi l'exploitation du pétrole.
Il y a du gaz.
Il y a du gaz.
Le gaz à Rucu, à Carawari, oui. Qui est plus dans le centre-sud de l'Amazonie. Et donc, qui entraîne aussi la mise en place d'infrastructures extrêmement importantes.
En Équateur, évidemment, c'est première production, c'est le pétrole.
Oui.
C'est un petit pays.
Il y a la construction de gazoducs.
Oui, il y a le gazoduc qui fait pas mal de dégâts par rapport à la traversée du pays aussi.
Oui.
Je ne sais pas s'il y a un lien. J'ai entendu ça aujourd'hui aux actualités, que les Indiens avaient obtenu une grande victoire par rapport à la préservation de leur site quant au risque de développement de l'extraction du schiste. Alors, je ne sais pas où ça se localise. J'avoue que je suis complètement ignarante. Et je sais que le schiste peut entraîner de grandes dégradations pour les cultures. Et je voulais savoir un peu si vous... Enfin, qu'est-ce qui se passe ?
C'était en Amazonie.
Oui, je ne sais pas si c'est en Amazonie, mais je sais qu'ils ont obtenu une belle victoire.
Le gaz de schiste ?
Qu'il n'y ait pas d'extraction de gaz de schiste.
En Amazonie, je vais regarder, lire le journal. Je n'ai pas d'informations sur l'exploitation de gaz de schiste. L'exploitation de bois, d'or, de ressources hydriques, enfin...
Pourriez-vous nous parler un petit peu des exploitations aurifères dans les fleuves et surtout des rejets effrayants de mercure qui vont ensuite se déverser dans les océans, bien sûr, et nous mangeons le poisson avec le mercure.
Honnêtement, alors en tant que botaniste, là, vous allez plus loin que mes compétences. Je connais le terrain, je vois comment les orpailleurs exploitent l'or avec l'utilisation de mercure. Je sais qu'il y a plusieurs programmes extrêmement importants qui sont mis en place pour orienter les populations à ne pas consommer de poissons qui sont en tête de chaînes trophiques et donc qui auraient accumulé du mercure. Mais honnêtement, je peux essayer de vous trouver les informations si cela vous intéresse, mais je ne m'aventurerai pas dans ce domaine.
Bonsoir, madame. Je voulais poser une question un petit peu politique sur l'exploitation de l'Amazonie. À qui appartient l'Amazonie ? Et je veux dire, puisqu'on a vu diminuer l'exploitation, la déforestation, est-ce que ça se fait de manière... plutôt autoritaire de la part des États ou de l'État vis-à-vis d'industriels ou vis-à-vis d'Amazoniens. Et je ne me rends pas bien compte du pourcentage de population proprement amazonienne par rapport aux Brésiliens qu'on connaît dans les grandes villes, par exemple. Comment s'exploite l'Amazonie ? Quelle est la part de l'industrie et quelle est la part de l'autochtone ?
Alors, la population amazonienne, c'est entre 12 et 15 millions d'habitants, dont la majeure partie est en ville. Vous faites appel à la notion d'autochtonie, qui est assez difficile à cerner, parce que vous avez une population amérindienne. À côté de ça, vous avez une population qui est venue lors de la colonisation, par exemple les Nordestins qui ont migré en Amazonie, poussés par les patrons de l'extractivisme du caoutchouc, et qui aujourd'hui font partie de la population amazonienne. Vous avez aussi les petits colons agricoles, ceux que l'on fustige souvent sur les fronts de colonisation qui sont établis maintenant là depuis 2 ou 3 générations. Donc c'est assez difficile de définir qui appartient à l'Amazonie, qui n'en appartient pas. C'est une histoire de mobilité qui s'intègre dans différentes échelles spatiales et temporelles. Donc à qui elle appartient ? Il y a des statuts fonciers extrêmement divers, je pense. Vous avez des propriétés qui sont reconnues, vous avez des propriétés qui sont appropriées, ce qu'on appelle le grillage. Grillage, ça vient du mot du grillon, c'est-à-dire qu'on donne au papier qui vont légitimer une propriété, un aspect de document authentique, un aspect de vieux document. Vous avez des terres qui appartiennent aux États, vous avez des terres qui appartiennent à la Fédération, à l'État national. Il y a des statuts extrêmement, extrêmement divers sur cet ensemble.
Est-ce que c'est ça qui rend difficile la limitation de la déforestation ?
Bon, là, c'est un peu comme la réponse à je ne sais plus quelle question de tout à l'heure. Le problème est un problème de contrôle également. Quels sont les moyens que l'on peut mettre en place pour contrôler ces déforestations ? Alors, l'INPE, l'Institut national de recherche spatiale, a un dispositif extrêmement fort de détection de feux, de foyers de chaleur, etc. Mais de là à transformer la connaissance d'un fait en une action sur le terrain, ça prend énormément de temps et requiert énormément de moyens. Donc le contrôle se fait de manière un peu disjointe.
Excusez-moi. La difficulté étant que certains brûlis sont nécessaires, voire favorables, par rapport à d'autres qui sont un petit peu sauvages, c'est ça ?
Il y a certains brûlis, ceux pratiqués par les populations traditionnelles, qui sont tout à fait mineurs par rapport à l'implantation d'une fazenda d'élevage ou d'une fazenda de soja. C'est complètement réduit. Les deux facettes n'ont pas de commune mesure entre le brûlis traditionnel et le brûlis lié à la mise en place de grandes exploitations. Quand vous parliez d'industrie, c'est davantage le secteur primaire qui avance que le secteur proprement industriel, bien que les limites entre l'agrobusiness et les fazendas ne soient pas tout à fait claires.
Oui, excusez-moi. Quelle est en fait l'incidence de la zone franche ? Enfin, j'ai deux questions qui sont un petit peu disjointes, mais enfin, c'est sur... c'est quelle est l'incidence de la zone franche de Manaus en fait sur à l'implantation des industries par rapport à la forêt ? Je ne me rends pas bien compte. Et puis aussi l'exploitation des bois durs, parce que par exemple au nord-est, toutes les maisons sont couvertes avec du macérandouba. Donc en fait, ce sont des arbres, je crois, qui viennent de la forêt amazonienne, à moins qu'ils soient plantés.
Macérandouba, a priori, plutôt amazonien que...
Voilà, donc je crois que quand on coupe un arbre, il faut d'abord défricher autour. Et comme il y a des millions et des millions de foyers qui sont couverts avec cet arbre qui est quand même pas si... Je ne sais pas, j'ai l'impression que ce n'est pas un arbre si courant. Quoi. Et toutes les toits, les maisons que j'ai pu voir étaient faites avec ce bois. Donc j'imagine que ça a un impact en termes de destruction.
Dans quelle région du Nord-Est ?
Fortaleza, Ceará.
Fortaleza.
Mais même la région de Natal aussi. Ben, toutes les maisons sont toutes couvertes.
Ce sont des toits en bardeau alors ?
Non, en tuiles.
En tuiles de bois, en
débarque. Non, c'est pas le macérandouba, c'est pour pour poser les tuiles. Si vous
voulez. D'accord, c'est la charpente.
La charpente.
D'accord.
Toutes les charpentes sont faites parce que ça résiste aux termites.
Oui. Oui, c'est un bois imputrescible qui est utilisé aussi pour faire les maisons sur palafitte, enfin faire les pilotis.
Mais bon, déjà si au nord-est toutes les maisons sont faites avec, et c'est des dizaines de millions de. Enfin, il y a beaucoup de bois en fait qui est utilisé, donc j'imagine que ça c'est pas complètement innocent sur la déforestation.
Alors, je reprends votre première question et puis sur la zone franche de Manaus, en fait, vous avez un modèle de développement qui a été extrêmement concentré et l'impact de la ville me semble relativement restreint sur son environnement forestier. Mais l'impact du développement de la zone franche a eu des conséquences extrêmement fortes sur les phénomènes migratoires en Amazonie, puisqu'elle a, elle a provoqué la, la migration et l'intégration d'une bonne partie de la population rurale dans la sphère urbaine. Et quand vous arrivez à Manaus en avion, du moins c'est ce qu'il y avait dans les années 90, vous avez vraiment l'impression d'arriver dans une île urbaine au milieu de la forêt. Aujourd'hui,